Et aujourd'hui, 14 juillet, on est à Saint-Nazaire, dans le département de la Loire-Atlantique.
Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle étape de notre rendez-vous Place du Marché. Hier, Aurélie Sfèze était à Saint-Sauveur-en-Puisaye en Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, cap à l'ouest, en Loire-Atlantique. Nous sommes à Saint-Nazaire et plus précisément à Saint-Marc, l'un de ses quartiers les plus réputés grâce à sa plage. Cette ville de 70 000 habitants est située à l'entrée de l'estuaire de la Loire. On est arrivé ici par le pont de Saint-Nazaire, le plus long pont de France avec une longueur de 3 356 mètres. Et là, le port de Saint-Nazaire s'impose à nous. C'est le poumon économique de la ville et des environs. Son impact rayonne bien au-delà de la région. Ses chantiers navals sont mondialement connus. C'est là qu'ont été construits les paquebots Normandie, France et bien sûr le dernier, le Symphony of the Seas, le plus gros paquebot au monde. En se promenant sur la plage, on croise régulièrement des bunkers. Ils nous rappellent combien Saint-Nazaire a été durement touché pendant la Seconde Guerre mondiale. La ville a été détruite à 80%, faisant des milliers de morts. Le quartier de Saint-Marc-sur-Mer, où nous sommes, est devenu balnéaire avec l'arrivée du train fin du 19e siècle. Mais l'histoire de Saint-Marc est à jamais liée à Jacques Tati. Le réalisateur a choisi Saint-Marc comme site pour son film « Les vacances de Monsieur Hulot » en 1951, il y a 70 ans. Pierre Joubert, bonjour.
Bonjour.
Jacques Tati a bouleversé votre vie et vous avez une histoire particulière avec ce film puisque on vous voit dedans. Vous aviez quel âge ?
J'avais 11 ans et donc Tati avait besoin de figurants comme tous les enfants de Saint-Marc. Moi j'ai eu la chance d'être conservé au montage, ce qui fait que j'ai donc toujours 2 secondes d'éternité devant moi avec ce film.
Vous avez aujourd'hui 81 ans, vous êtes en pleine forme. Décrivez-nous la scène où on vous aperçoit dans le film.
On est sur la plage, là, sur la falaise, et puis Tati dit au revoir aux autres protagonistes du film. Et nous, les enfants, on est là, ils nous regardent, on apporte un réconfort à ce refus des autres.
Là, on est légèrement en retrait du marché parce que je tenais vraiment à vous retrouver ici face à la mer, juste à côté de cette statue en bronze de Monsieur Hulot. Elle surplombe la mer comme si elle veillait dessus. Dans le film, il y a un détail qui n'échappe à personne. Monsieur Hulot ne se sépare jamais de sa pipe. Il se trouve que la pipe de cette statue d'Emmanuel Debar a connu pas mal de déboires. Elle a été volée à plusieurs reprises. C'est ça,
oui,
Pierre Joubert ?
Eh oui, elle a été détruite, elle a été cassée par les gens qui pensaient que c'était simple de pouvoir s'accrocher, de se faire prendre en photo avec. Et on l'a retrouvée une fois par terre sur le sable. Et oui, elle est quelque part. Mais bon, il n'y a plus de pipe maintenant.
On reviendra avec vous sur Jacques Tati et ce film qui a fait la renommée de Saint-Nazaire. Vous nous direz aussi comment cette ville, que vous connaissez par cœur, a évolué. En parlant d'évolution, on verra comment les énormes paquebots vont bientôt être moins polluants grâce à des voiles fabriquées ici au chantier naval. Saint-Nazaire est aussi très attaché à la culture ouverte vers l'extérieur, comme la maison des écrivains étrangers et traducteurs. On fera la connaissance d'un luthier particulier. Il souffre de dyslexie et il a inventé des instruments adaptés à son handicap. À l'heure de l'apéro, c'est plats et desserts aujourd'hui, des plats préparés par des femmes étrangères. Elles ont réussi leur intégration grâce à leur talent culinaire. Et enfin, on dégustera des yaourts artisanaux tout droit arrivés d'une ferme de Saint-Nazaire. Mais avant, on écoute le choix de notre programmateur musical Djoubaka, c'est Gaël Faye avec Histoire d'amour.
Tu sais ce qu'on dit, y a pas d'amour, y a que des preuves d'après le juge. Toi t'existais depuis toujours, moi je te cherchais comme une excuse. Médicaments sans ordonnance, évidemment t'es l'évidence. Téléguidé par tes pouvoirs, auprès de toi chaque jour est victoire. Je veux m'endormir à tes échos, éternité cœur en dépôt. Terrain miné sera notre histoire, oh, terminé de douter pour une fois.
Kito kona yo lokola, sanza na minzoto likolo. Yonde mo teme pona ho, yonde na linga.
Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, 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 histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, oh, oh. J'ai trébuché, je suis tombé. Tu m'as touché, j'ai succombé. Obsolescence déprogrammée, je t'aime à la perpétuité. Même si le monde est contre nous, je serai fort prêt contre toi. Je me fous de la mort qui dénoue. On se dira oui comme autrefois. Elles poucavent les étoiles entre elles.
On balançait ce que je voulais dire. Toutes les belles choses que porte le ciel ne font qu'imiter ton sourire.
Nakoko vanda kimiate, mokili ebongi yeba, bolingo yanga na yo suka seliwa.
Histoire d'amour, histoire d'amour. Alléluia, Ave Maria, femme jardin, ma malaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie, oh c'est les lois loin d'Haïti. Alléluia, Ave Maria, femme jardin, ma malaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani, sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie, oh c'est les lois loin d'Haïti.
Vous écoutez Rendez-vous Place du Marché sur France Inter. En ce 14 juillet, nous sommes à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Nous sommes toujours avec vous, Pierre Joubert. Vous êtes la mémoire de la ville. Là, on traverse le marché. Là, il y a un splendide stand de poissons. Vous venez souvent vous fournir ici ?
Tous les jours de marché, je suis là, hein, parce qu'on a des très bons producteurs. Et puis, la poissonnerie a du poisson frais qui vient de la Turballe et du Croisic. Et puis, autrement, on a des producteurs bio du coin, dont chèvre et chou. Et puis, voilà, il y a tout ce qu'il faut.
Là, on va aller dans le café du centre. On va rejoindre nos prochains invités. Là, ils nous attendent. Là, je vois qu'il y a Nicolas Abivin. Vous êtes le monsieur voile des chantiers. Vous nous expliquerez comment les paquebots vont bientôt être équipés de voiles pour devenir plus écologiques. Mais on commence avec vous, Pierre Joubert, car j'avais très envie qu'on s'attarde sur l'histoire et l'évolution de Saint-Nazaire, et aussi sur celui qui a fait sa renommée, Jacques Tati. Son film « Les vacances » de monsieur Hulot a été une incroyable aubaine pour Saint-Nazaire.
Alors oui, on va préciser qu'ici on est à Saint-Marc-sur-Mer, hein, c'est un quartier de Saint-Nazaire. Donc j'ai 11 ans et puis je vois arriver à Saint-Marc débarquer une bande de ce qu'on appelle les Azous à cette époque-là, c'était dans les années 50-51. Donc c'est Tati et toute son équipe et donc il passe inaperçu, quelques journaux en parlent, mais en gros on n'a aucune culture cinématographique, hein, on est juste à la fin de la guerre, on sait très peu de choses à Saint-Marc. Nous, les gamins de 11 ans, on est toujours dehors. Hein, on est toujours sur la plage. Et on les voit arriver, dérouler leurs câbles et ces choses. Et puis, petit à petit, maquiller le bourg. On voit que les maisons, petit à petit, sont des maisons en bois qui ont été colorées pour les besoins du film. Car Tati voulait le faire en couleur au départ. Mais ça ne s'est pas produit. Donc, petit à petit, le côté maritime du bourg change.
La ville se transforme grâce au film. Elle voilà. Change de visage.
C'est ça. On dit que le bourg est maquillé. Hein. Il y a des maisons qui deviennent pimpantes d'un seul coup. Et puis, il y a des décors. Hein. Il y a un décor qui présente le balcon de Martine, la jeune femme qui est la vedette du film, qui est complètement à l'extérieur. Il y a une fausse entrée à l'hôtel.
Et d'ailleurs, l'hôtel de la plage, qui est juste à côté de nous, là.
Et d'ailleurs, très souvent, les gens pensaient rentrer, aller boire un coup au l'hôtel de la plage en ouvrant et puis ils se retrouvaient devant la pierre. Évidemment, c'était marrant. Quoi.
Bon, Pierre Joubert, je vous propose qu'on se rafraîchisse la mémoire avec un petit extrait préparé par Raphaël Pluxva.
Oh, quel ravissant spectacle, n'est-ce pas, cher monsieur? Justement, j'admirais la mer. Ces rochers, ces petites voiles blanches, tout ça, c'est vraiment joli. Qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas? C'est Saint-Nazaire? Vous voyez au loin, là-bas, de ce côté.
Là-bas.
Pour moi, les vacances au bord de la mer sont toujours très agréables et reposantes. Malheureusement, il y a trop de vent. On n'est jamais bien coiffé, n'est-ce pas?
J'imagine que pour vous, ce sont de bons souvenirs, Pierre Joubert. On rappelle que vous avez une histoire incroyable avec ce film, puisqu'on vous y voit. Comment vous avez fait pour être figurant sur ce film, alors que vous n'aviez que 11 ans?
Mon père, qui était instituteur, avait été contacté par Tati, parce qu'il faisait un peu partie des notables de l'époque. Bon, Tati était très grand, il nous faisait peur. Hein. Peur, c'est pas tout à fait le mot, mais nous, les enfants, à cette époque-là, les adultes, franchement, on s'en défiait. Ben parce qu'ils nous interdisaient toujours de faire des tas de trucs alors qu'on avait envie de faire des... Bon. Donc on le voit puis on se moque un petit peu, se dit mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond ce truc-là, à quoi ? Ça nous avait extrêmement surpris, hein. Et donc définitivement on s'était dit bon ben, on comprendra jamais rien à ce qu'ils font. Ben, c'est la magie du cinéma, c'est ça, hein, c'est pas ce qui va se passer.
On ne l'a pas encore dit, mais vous êtes peintre et le président de l'association Culture et Loisirs de Saint-Marc. Vous allez organiser l'anniversaire des 70 ans du film, les 11 et 12 septembre prochains, enfin si le Covid le permet.
Non, ça permettra, on le fera sans problème. Hein.
Mais le film Les Vacances de Monsieur Hulot, ça a été une aubaine pour Saint-Marc et Saint-Nazaire.
Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, il y a eu un énorme engouement pour Saint-Marc, parce que les pays anglo-saxons étaient très, très, très friands de ce type de cinéma. Ben, ils sont venus à Saint-Marc. Et donc, le camping s'est développé. Avec le tourisme des années 70 et à la suite, donc, il y a eu toujours beaucoup de demandes de gens qui venaient à l'hôtel de la plage. Ils voulaient coucher dans la chambre de Monsieur Hulot, alors qu'il a tourné une seule séance à l'hôtel de la plage.
Le reste a été tourné en studio à Boulogne-Billancourt. Mais comment il a fait Jacques Tati pour atterrir ici à Saint-Marc, à Saint-Nazaire ?
Eh bien, il a choisi Saint-Marc parce que il y avait un joli cadre que vous voyez en face de vous. Cette espèce de magnifique espace de vacances familiales.
Mais c'est très agréable, on est arrivé il y a deux jours et c'est vrai qu'on passe vraiment du bon temps ici à Saint-Marc. On est à la fois amusé et touché par la maladresse de Monsieur Hulot dans le film, mais ça va beaucoup plus loin que ça, que le côté léger du film. Mais ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, à ce moment-là, on oublie les choses simples de la vie, les relations simples entre les individus.
C'est ça. Donc, la société complètement artificielle de ces gens qui vivent en vase clos, et lui qui apporte une bouffée de poésie, d'air frais. D'ailleurs, il est toujours entouré d'enfants. Les enfants sont toujours son thème. Hein. Les enfants, c'est l'espoir, c'est la poésie. Hein. Vous avez la séquence du petit garçon avec sa glace qui va tourner sa glace pour ouvrir la porte, et puis la glace, eh ben, elle ne tombe pas. Pourquoi ? Ben, c'est la magie de l'enfance.
Et justement, cette enfance-là, pour vous, vous considérez que, bah, elle a un peu changé de visage, qu'elle a évolué, parce que faut le dire, vous êtes à Saint-Marc, la mémoire du quartier, vous connaissez ce quartier par cœur. Comment a évolué Saint-Nazaire et ce quartier de Saint-Marc ?
À Saint-Marc, ça a toujours été des petites maisons, à part sur la côte où il y avait quelques maisons bourgeoises, hein, de gens, c'était des pilotes de Loire, ou bien c'était des gars qui aimaient la mer, qui avaient fait construire des maisons à la fin du 19e. Des très belles maisons de pierre. Et autrement, c'était très disparate. On n'a pas de style. On n'est pas tout à fait en Bretagne. On y est à moitié. En même temps, il y a les chantiers. Et les gars, à l'époque, qui travaillaient au chantier, ils étaient très, très, très habiles de leurs mains. Et ce qu'il y a eu, c'est que, juste après la guerre, à la reconstruction, beaucoup de Nazariens ont été logés dans ce qu'on appelait des bungalows, c'est-à-dire des petites maisons préfabriquées qui venaient du Canada ou de l'Amérique, enfin, qui étaient très très bien conçues. Pour des gens modestes, ils étaient en bordure de mer. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Il y a eu la reconstruction. Petit à petit, tout le bord de mer, il a été pris par des constructions, mais pas comme à La Baule, où c'est devenu absolument infâme, puisqu'on a du béton sur toute la baie. Ici, à Saint-Marc, c'est pareil, on a eu des immeubles sur le bord de la mer, à la place des villas. Et puis, ben, c'est bien dommageable, parce que quand on a mis un immeuble devant la côte, ceux qui sont derrière n'ont plus de ciel.
Heureusement, la mer, elle, n'a pas changé, encore que. En tout cas, impossible de parler de Saint-Nazaire sans aborder les chantiers navals, fleuron industriel français. Nicolas Bivin, on avait très envie de vous inviter. Vous avez été un navigateur hors pair. Vous avez gagné en 2003 la Transat Jacques Vabre. Vous êtes maintenant pleinement ingénieur et vous travaillez pour les chantiers de l'Atlantique depuis des années sur un projet qui va révolutionner les croisières et surtout notre environnement. Vous avez mis au point un système de voile qui va bientôt équiper les paquebots, ces monstres des mers hyper polluants. De quoi s'agit-il au juste ?
Le transport à la propulsion vélique des navires, ce n'est pas une nouveauté. Hein. Ça existe depuis à peu près 12 à 15 000 ans, selon où on met le curseur. Par contre, ce que l'on veut faire, c'est réintroduire la propulsion vélique sur des grands navires, chose qui a cessé d'exister il y a une centaine d'années entre les deux guerres.
Et pourquoi on avait abandonné ce système vélique de voile ?
Eh bien parce que la propulsion thermique avec les roues à eau puis les hélices, etc., avait fait de gros progrès. Et les navires marchands à voile nécessitaient plus de main-d'œuvre que les navires marchands à propulsion thermique. Et le prix de revient du transport était plus élevé avec des voiles. Et les derniers voiliers se sont arrêtés.
Vous avez mis au point ce système qui s'appelle Solid Sail. En quoi ça consiste ?
Une voile crée de la portance de par sa forme et la dépression qui est créée quand elle rencontre du vent. Donc il faut qu'il y ait un peu de volume, un peu de creux, ce qui correspond un peu aux pinces sur un vêtement, si vous voulez. Et en fait, quand les voiles sont très grandes, ce creux peut devenir difficile à maîtriser et induire des mouvements qu'on appelle du fassement, qui peut donner de très grands efforts néfastes à la bonne tenue du gréement. Et donc on a travaillé à avoir une voile qui a deux niveaux de fonctionnement. Lorsqu'elle sert à propulser le navire, où elle prend un peu de volume. Et un autre mode de fonctionnement lorsqu'on veut l'effacer, la replier, où là, en fait, les panneaux redeviennent complètement plats et elle se plie comme un accordéon.
Ça pourra pousser des paquebots de combien de mètres ?
Dans l'absolu, il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de limite. Même les plus gros qu'on connaît, qu'on voit, ils pourraient être propulsés par des voiles.
Tout à fait. Il y a aucune limite à ce niveau-là. C'est juste de l'ingénierie. Donc pour l'instant, on vise des bateaux autour de 200-220 mètres de long, sur lequel on va mettre 3 gréements, à peu près pour 5000 mètres carrés de surface de voile au total. Mais on pourrait imaginer aller plus loin. Il n'y a pas de limite.
Alors ce qui est intéressant dans votre projet, c'est que ces voiles vont rendre les paquebots plus écologiques.
Alors, si on installe des voiles sur les navires dès maintenant et qu'on ne change pas du tout ce qu'on appelle le time schedule, le planning des escales, moyenné sur l'année, on va gagner 25% de carburant, ce qui est déjà un gros gap. Et si vous voulez aller plus loin, il faut que la société accepte qu'un porte-container arrive un peu plus tard que prévu, que vous ne soyez pas livré de ce que vous avez acheté sur Internet dans 15 jours, mais dans 3 semaines, etc. Donc ça, c'est une évolution sociétale, mais ce qu'on peut retenir, c'est que dans un premier abord, sans changer aucune contrainte par ailleurs, on peut gagner 25% de consommation de gasoil.
Tout à l'heure, lorsque j'ai dit que les paquebots étaient des mastodontes, des mers hyper polluants, je vous ai vu froncer les sourcils.
Oui, c'est un sujet très sensible chez nous, puisque effectivement, on est souvent un peu pointé du doigt.
Alors, en même temps, c'est vrai que ça pollue un paquebot, hein.
Alors, n'importe quelle activité humaine, disons, pollue, si on peut dire. Ensuite, si on raisonne au nombre de kilos transportés, etc., plus un bateau est gros, plus il est efficace. Ensuite, nous avons diminué les consommations de nos navires de 30%. On travaille sans arrêt sur à la fois l'efficience énergétique, c'est-à-dire faire des carènes qui pénètrent mieux dans l'eau, des hélices plus efficaces, plein de domaines, une climatisation plus efficace. Et également, évidemment, on regarde vers les nouvelles solutions d'avenir de propulsion, l'hydrogène, les biocarburants, mais qui auront aussi un coût. Le fait de faire plus green, ce sera plus coûteux.
Et vous allez un peu à contre-courant, parce que justement, vous y faisiez référence. Aujourd'hui, dans cette société où on commande un produit sur Internet, on l'a parfois 2 heures après, au pire des cas, 24 heures après. Vous revenez à des notions où on est plus lent, où il y a plus d'incertitudes.
Là, pour l'instant, on discute avec tant dans le domaine du paquebot que dans le domaine du navire commercial, avec des clients potentiels intéressés par notre technologie. Les premiers qui vont commencer à exploiter ça sur des bateaux de grande taille vont certainement réinventer un mode d'usage. On verra à terme de 5-6 ans ce que ça va donner.
Nicolas Bivin, vous avez été un grand navigateur et vos amis skippers avaient des doutes sur votre système. Le héros du dernier Vendée Globe, Jean Le Cam, avait des doutes et il a accepté de tester votre voile sur son bateau. Quel a été le résultat ?
Effectivement, Jean n'a pas sa langue dans sa poche, tout le monde le connaît.
Ouais, on le connaît bien. Il vous a dit quoi, d'ailleurs ?
Quand on est arrivé avec la première voile sur le quai, il nous a dit « c'est encore un truc d'ingénieur, ça ne marchera jamais ». On avait prévu faire des essais, donc on est quand même sorti avec lui. Et on a fait 3 semaines d'essais à peu près. Et plus ça allait, plus il disait finalement, c'est pas si mal que ça. Et à la fin, il nous a dit, ça marche. On sait pas trop pourquoi, mais ça marche.
Quand est-ce qu'on verra les premiers paquebots équipés de vos voiles, Solid Sail ?
À l'horizon 2025, sur les paquebots ?
Un bateau équipé de votre voile, est-ce que ça coûte plus cher qu'un paquebot classique ?
De l'ordre de 5% à peu près. C'est pas non plus monstrueusement élevé.
Nicolas Bivin, on s'est rendu sur un autre chantier naval qui lui aussi se soucie de l'environnement, mais différemment de vous, la société Bateau transforme des voiliers et des vedettes de plaisance hors d'usage. Il leur donne une seconde vie sur la terre ferme. Ils en font un espace supplémentaire dans divers secteurs possibles. On a rencontré Didier Toquet, le fondateur de Bateau, à Rosay, près de Nantes.
Vous êtes sur le chantier naval insolite Bateau, B-A-T-H-O accent circonflexe, qui est la contraction de bateau et d'hôtellerie, où on réemploie des bateaux de plaisance en fin de vie fabriqués en polyester, en d'autres usages que la navigation.
Et qu'est-ce que vous proposez comme type de seconde vie à ces bateaux-là ?
Alors, on propose quelque part un habitat sur terre ferme, déjà. Nous, on appelle ça, pour être un peu poétique, une croisière immobile. Et donc, on se dit, les bateaux qu'on récupère, ils ont navigué sur tous les océans, on les passe aux non-navigants.
Tous les bateaux que vous récupérez, c'est des bateaux en fin de vie qui ont plus de 40 ans, voire 50 ans, voire peut-être plus, avec des matériaux difficiles à recycler.
Le polyester ne se recycle pas. On ne sait pas comment s'en débarrasser. Et nous, on a essayé de créer une filière de réemploi de ces bateaux pour d'autres usages. Le premier, c'est le gîte pour les particuliers ou l'hébergement insolite pour l'hôtellerie de plein air. On en a fait aussi des salles de réunion d'entreprise connectées. On en fait aussi des aires de jeux pour enfants ou on en fait des espaces pour les commerçants.
C'est un cycle vertueux.
C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire des déchets. On part d'un déchet, on crée d'autres choses avec d'autres. On ne peut pas faire d'économie circulaire sans avoir créé un écosystème de partenaires publics, privés, associatifs et citoyens. Citoyen, c'est celui qui nous donne son bateau, qui ne peut plus naviguer, ou c'est celui qui va venir passer une nuit à bord dans un camping, par exemple. Les collectivités, parce qu'elles sont en charge des déchets, etc. Donc c'est un système collaboratif qui crée de nouvelles valeurs qu'on se partage.
Donc là, on vient de monter sur ce bateau qui est en train d'être retapé, quoi.
Nous sommes dans le cockpit du bateau, encore à l'extérieur, où on peut prendre l'apéro ou son petit déjeuner le matin. Et puis là, on rentre dans une cabine. En fait, on a tendance à loftiser le bateau, c'est-à-dire à enlever des parois qui servaient à faire des soutes, à voile, des choses dont on n'a plus besoin. Ensuite, on les réaménage en fonction de chacun des acquéreurs, sur ce qu'il veut. On a des cahiers des charges qui sont très différents en fonction du client final, j'ai envie de dire. Et celui-là, il est fait pour un grand-père qui a voulu en faire une chambre pour ses petits-enfants.
Et là, pourquoi ce grand-père, il a voulu avoir ce bateau pour ses petits-enfants ?
Au départ, c'est pas lui, c'est un autre grand-père qui ne pouvait plus naviguer et qui nous appelle en disant « Je veux pas voir mon bateau mourir, j'ai tellement d'histoires avec ce bateau, je suis prêt à vous le donner et ça m'intéresse que vous en lui donniez une deuxième vie. » Puis l'autre jour, on l'a appelé en lui disant « Écoutez, monsieur, votre bateau, ça y est, il est en projet et c'est un grand-père qui l'achète pour ses petits-enfants. » Il a dit « Ça me fait tellement plaisir et encore plus que ce soit un grand-père comme moi qui l'achète pour ses petits-enfants et qui est en face de la croisière immobile. »
Là, il y a beaucoup de couchage.
Dans les bateaux en général, qui sont plutôt les voiliers qu'on réutilise, nous, parce que c'est des bateaux très harmonieux, il y a à minima toujours au moins 4 couchages. Ce qui est drôle aussi, c'est que dans un bateau, on y dort comme un équipage. C'est-à-dire, on n'est pas chacun dans notre chambre. Et donc, ça donne des soirées où on se raconte ce qui s'est passé dans la journée, comme dans un bateau qui navigue, j'ai envie de dire.
Didier Toquet, est-ce que ça coûte cher, un bateau comme ça chez vous ?
Un bateau, ça nécessite à peu près 450 heures de travail pour nous. Et ça coûte entre 15 000 et 30 000 euros. Ça dépend après des niveaux d'équipement que les gens veulent, de la terrasse qu'ils veulent. Finalement, à chaque fois, c'est un devis, mais ça vous donne une moyenne d'environ 20 000 euros pour avoir un bateau posé dans votre jardin sans construction au sol. Et ça vous fait un habitat, en tout cas, très atypique et puis au charme fou.
France Inter. Antoine Lee. Rendez-vous place du marché.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien, la nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer, les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière, on a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire.
C'était Mickey 3D avec Respire. Vous écoutez France Inter, c'est Rendez-vous Place du Marché à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. On est toujours avec Pierre Joubert, la mémoire de la ville, et Nicolas Bivin, le monsieur voile des chantiers navals. Saint-Nazaire a toujours été très attaché à la culture ouverte vers l'extérieur. Pour preuve, la maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire. Elisabeth Biscay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice. En quoi consiste la maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire ?
Alors, la maison des écrivains étrangers et traducteurs existe depuis plus de 30 ans à Saint-Nazaire et accueille en permanence un écrivain étranger. Donc c'était un projet d'avoir en permanence comme une vigie, en fait, parce que l'appartement de résidence est au 10e étage près de la base sous-marine. Un écrivain dans la ville, un écrivain étranger qui vienne avec son vécu et qui reparte avec un petit bout de Saint-Nazaire après. Donc c'est la littérature étrangère et le monde entier vient à Saint-Nazaire. Depuis 34 ans, on a des écrivains du monde entier choisis par un jury national et ils posent candidature et ils viennent 2 mois vivre à Saint-Nazaire.
Vous l'avez évoqué, ils sont accueillis dans un endroit, dans un lieu privilégié. Donc c'est au 10e étage, au sommet d'un immeuble. Et qu'est-ce qu'ils voient, ces écrivains étrangers ?
Ils voient en fait l'estuaire de la Loire, le petit Maroc, et donc ils sont tout près de la mer aussi. Ils sont très sensibles, ça revient très souvent dans leurs, parce qu'après on les publie, dans leurs échanges sur la lumière de Saint-Nazaire. La lumière est très importante pour eux. Il y a le pont-levis aussi, parce qu'il y a le pont-levis qui est à côté du petit Maroc.
C'est quoi le petit Maroc, pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Nazaire ?
Alors, il faudrait peut-être demander à M. Joubert l'historique.
Alors, bah oui, hein, on a la mémoire de la ville, profitons-en.
Le petit Maroc, c'est une île, mais c'est rattaché à la ville par ce pont-levis qui laisse passer des bateaux qui rentrent dans le port. Le nom vient de... On dit que ça viendrait du côté des Bretons de Douarnenez ou de ce coin-là. C'était les gars qui partaient à la pêche à la langouste sur les côtes marocaines et qui sont venus s'installer à la période de la crise de la pêche sur cet endroit où il y a toujours des pêcheurs.
Vous voyez, Pierre Joubert, il en reste des gardiens de phare à Saint-Nazaire ?
Oui, c'est sûr que le haut du building offre une vue extraordinaire. Hein. C'est l'estuaire, c'est l'embouchure, c'est l'ouverture, en fin de compte, sur le monde.
Il y a une tradition comme ça, culturelle, ouverte vers le monde, vers l'extérieur, ici à Saint-Nazaire ?
Ben, Saint-Nazaire, c'est une ville qui s'est construite avec des gens qui viennent de partout. Hein, puisque les chantiers ont embauché des gens qui sont venus des pays de l'Est et d'un peu partout. Ça a toujours été une tradition d'ouverture.
Et pour vous, Elisabeth Biscay, qui est la coordinatrice de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire, le but, c'est bien de promouvoir la littérature étrangère contemporaine chez nous en France.
Exactement. Donc c'est une structure qui est unique en France, hein, et même au-delà, puisque voilà, on vient nous demander conseil de Chine, d'Argentine, du Liban, pour créer des mêmes structures. Et donc nous, le cœur, c'est la résidence. Mais à côté de ça, on est une maison d'édition, donc toutes nos éditions sont bilingues. Donc on met en avant la traduction aussi. On organise des rencontres littéraires internationales dans la base sous-marine. Et on est aussi la vie littéraire de la ville, puisqu'on travaille avec différentes structures dans toute la ville. Et également aussi avec les collèges et les lycées. Donc faire promouvoir et la littérature étrangère et la traduction.
Dans cette maison des écrivains étrangers, vous avez accueilli des écrivains prestigieux comme Gao Xingjiang. C'était une dizaine d'années avant son prix Nobel. Voilà. Vous avez du flair.
Hein. Oui, voilà. Moi, j'y suis strictement pour rien du tout.
Ne soyez pas modeste.
Tout récemment, donc l'année dernière, on a... parce qu'on remet aussi des prix littéraires. Et donc, on a remis le prix littéraire à Olga Tokarczuk, qui a reçu le prix Nobel de littérature. Et donc, on a eu l'extrême grande joie. Elle est venue à Saint-Nazaire recevoir le prix Laure Bataillon avant d'aller recevoir le prix Nobel de littérature. Donc voilà, oui, il y a eu plusieurs prix Nobel. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi que depuis des années, donc depuis plus de 34 ans, énormément d'écrivains sont venus en résidence, et notamment surtout d'Argentine. Et maintenant, on reçoit des écrivains, des jeunes écrivains argentins, qui sont très émus de partager le lieu, enfin de ces murs de l'appartement, qui ont accueilli des maîtres pour eux et des auteurs qu'ils ont lus dans leur manuel scolaire. Et ce qu'on fait aussi avec les écrivains, à chaque écrivain, on demande d'écrire une lettre de bienvenue à l'écrivain suivant. Mais il y a une sorte de chaîne comme ça internationale dans le temps et dans l'espace qui se crée.
Et en ce moment, il vient d'où l'écrivain qui occupe la maison des écrivains étrangers ?
Donc c'est un écrivain croate qui vient d'Inco Creo. Et donc avec chaque écrivain, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on organise une rencontre à la médiathèque, une discussion avec le public nazérien et l'auteur.
Et lui, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé une lettre d'un écrivain qui venait de quel pays ?
Alors, l'écrivaine avant était du Vietnam. C'était Thuan. C'est un lien qui se crée, informel.
Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous les choisissez, ces écrivains ? Par exemple, on évoquait Gao Xingjiang. Quand vous l'avez invité ici, on ne savait pas que c'était un écrivain qui allait avoir le prix Nobel.
Non.
Comment vous faites pour dénicher ces pépites ?
C'est un jury qui est national. Et dans ce jury-là, il y a des éditeurs, des critiques, des traducteurs. Et donc, ils sont...
En alerte. Courant,
voilà, en alerte de ce qui se passe. Et donc, ce sont les écrivains qui posent candidature. En moyenne, on a une 80-90 candidatures chaque année. Il n'y en a que 6 qui sont retenus pour leur qualité littéraire, leur projet. On reçoit aussi des traducteurs étrangers. Ils ne parlent pas forcément français. La plupart ne sont pas publiés en français non plus. Donc c'est vraiment sur la qualité littéraire dans leur pays déjà, quoi. Ils sont connus.
Alors c'est 6 par an parce qu'il reste 2 mois,
voilà.
Non reconductibles.
Ils ne reviennent jamais. Ce qui, voilà, certains aimeraient beaucoup revenir, mais non. Le principe, c'est non, une fois.
Faut qu'il y en ait pour tout le monde. Ouais. Mais comment elle est née, cette maison des écrivains étrangers, des traducteurs ?
Alors, donc, la maison, au début, a été créée il y a donc 34 ans. Il y avait donc la volonté de la ville, la volonté d'un monsieur Boutemi, voilà, qui était libraire et éditeur. Et donc, il s'est créé autour, tout de suite, un comité technique, un comité littéraire, de critique littéraire, pour promouvoir. Et monsieur Batteux, donc, qui avait voulu cette présence. Donc, c'était vraiment tout de suite littérature étrangère et vivante.
On ne peut pas parler de cette maison des écrivains étrangers et des traducteurs sans parler de son directeur, Patrick Deville, lauréat du prix Femina en 2012. L'écrivain est très attaché à Saint-Nazaire. Et chez vous, vous faites très attention à mettre en avant les traducteurs.
Sans eux, en fait, on ne pourrait pas lire la plupart des publications qu'on lit actuellement.
Bien dans la langue de l'écrivain, mais ce serait compliqué.
Voilà, moi, je ne parle ni turc, ni chinois. Si, je parlais chinois, mais voilà. Et donc, le traducteur est considéré comme un auteur, en fait. Donc, nos publications sont bilingues. Et c'est aussi une transparence qu'on donne et une confiance aussi que le traducteur donne au lecteur en disant, voilà, je vous donne le texte original, voici ce que j'en ai fait. Et le traducteur est nommé dès la couverture. Donc, c'est vraiment redonner la place essentielle qu'a la traduction dans la littérature aujourd'hui.
la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire est donc un lieu ouvert vers les autres cultures. On retrouve cet état d'esprit côté musique avec le festival Les Escales qui rassemble l'été des musiques du monde entier. Mais il faudra attendre 2022 pour célébrer la 30e édition, Covid oblige. En attendant, on va faire la connaissance d'un jeune musicien qui utilise son art pour qu'on s'ouvre à des personnes handicapées. Ewen Davio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc musicien, luthier et aussi ingénieur, autant de qualités qui vous ont permis d'inventer et de fabriquer des instruments de musique spéciaux. Ils sont adaptés au handicap dont vous souffrez. D'abord, de quel handicap s'agit-il ?
Alors moi je suis 10, par exemple la dysmusie qui est la dyslexie appliquée à l'identification musicale des notes de musique.
C'est quoi ça ? On ne connaît pas bien ce handicap.
Eh bien justement, c'est un handicap qui est assez méconnu puisque en fait dans le cursus scolaire il n'y a pas eu de recherche vraiment, étant donné que la musique c'est pas quelque chose qui est a priori nécessaire dans l'éducation d'un enfant. Il y a que depuis très peu de temps que des recherches sont faites sur cette problématique qui touche l'identification de l'oreille, des sons graves et aigus. Donc on a tendance, quand on a cette problématique, comme c'est le cas pour moi, d'inverser les harmoniques dans un globalité. Ce que j'explique en général dans mes formations et mes conférences sur le sujet, c'est qu'un do, c'est un peu comme une soupe à la tomate, si vous voulez. Dans une soupe à la tomate, on y met toujours une prépondérance de tomates, mais il y a aussi des condiments, des oignons. Et quand on est dysmusique, ce do, qui est un peu comme une soupe à la tomate, puisqu'il va y avoir un peu de do, un peu de sol, ce qu'on appelle les harmoniques, qui sont en fait des notes constitutives, eh ben on va pas pouvoir trouver une prédominance et donc du coup on va pas pouvoir savoir si c'est un do ou un sol. Voilà.
Pour surmonter et contourner ce problème, ce handicap, vous avez inventé et créé un instrument que vous avez apporté avec vous. Est-ce que vous pouvez nous le montrer, nous le faire entendre, s'il vous plaît ?
C'est un octodina. Octodina, parce que vous allez voir, c'est un instrument qui est muni de couleurs.
On dirait c'est un peu comme un accordéon avec tout plein de touches colorées.
C'est ça. C'est un accordéon dans lequel on souffle. Il y a un tuyau aussi qui est flexible, rigide. L'organisation des touches sur le clavier est colorée, ce qui fait qu'on a un lien directement entre du visuel et de l'auditif. Et ça, c'est intéressant parce que quand on est 10, on peut se tromper, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des erreurs d'interprétation, d'un des sens. Mais le problème des 10, c'est pas qu'on fasse des erreurs, mais c'est plutôt qu'on ne s'en rende pas compte. Et c'est un instrument muni d'un système de retour acoustique par voie osseuse qui permet d'avoir une vibration et un retour acoustique vibratoire par le contact avec la peau, qui fait que s'il y a un des trois sens qui bug, et ben les deux autres permettent de pouvoir finalement se rendre compte qu'on s'est trompé et ça permet de pouvoir travailler la musique de manière autodidacte.
Vous pouvez nous faire une petite démonstration ?
Ici, il y a un tuyau dans lequel on souffle. Ensuite, ici, on a des touches sur lesquelles on va appuyer avec ses doigts.
Les touches colorées. Il y a du vert, du rouge, du jaune, du rose.
Et si on commence sur un jaune, ça va jouer en jaune majeur, par exemple. Et si on commence sur un vert, ça va jouer en vert majeur. Et donc, du coup, ça permet de transposer. Et donc, je vais vous faire une petite démonstration.
Il sort par où le son que je puisse placer notre micro ?
Par les ouïes qui sont ici. Vous voyez les trous.
Merci beaucoup.
Et donc c'est un instrument sur lequel on peut jouer des accords et aussi des mélodies. On peut s'accompagner avec les deux mains. Et donc du coup c'est très visuel. Moi je compose beaucoup de mes mélodies avec les dessins qui sont formés sur l'instrument. Ça permet de pouvoir accéder à la musique sans avoir à recourir à des concepts très théoriques du solfège. Et donc ça permet aux enfants de moins de 7 ans de pouvoir composer ou d'expliquer des concepts qui normalement peuvent se transmettre qu'après 10 ans de conservatoire. Donc ça c'est assez intéressant.
Et Wendavio, ça vous a pris 4 ans pour créer cet instrument. Et c'est un peu une revanche sur la vie, parce que vous venez d'une famille qui adore la musique, qui adore danser. Et quand vous étiez petit, vos parents vous ont inscrit dans une école de musique, mais ça s'est pas très bien passé.
C'est ça, c'est-à-dire que j'avais pas les compétences et j'avais pas non plus les outils à l'époque pour pouvoir compenser les troubles dont je suis porteur.
En tout cas, il était important pour vous de rendre accessible la musique aux personnes qui sont atteintes du même handicap que vous. Vous faites pas ça pour l'argent, je crois que vous avez vendu une dizaine d'instruments pour l'instant, mais c'est pas le but, c'est vraiment démocratiser, donner l'accès à la musique à des personnes atteintes du même handicap, de dysphasie ou de dysmusie.
Aujourd'hui, je travaille sur à peu près 12 projets à l'année de création d'instruments nouveaux. Certains, je ne les referai pas. C'est des pièces uniques. Et il y a tout un tas de collaborateurs qui gravitent autour de ma vocation et de ce que je propose aujourd'hui au niveau professionnel, au niveau international, quoi.
Merci beaucoup, Ewen Davio. Restez avec nous. C'est bientôt l'heure de l'apéro, mais c'est carrément un repas complet qui nous attend. Des plats préparés par des femmes étrangères qui s'intègrent grâce à la cuisine. Et on dégustera des yaourts artisanaux tout droit arrivés d'une ferme de Saint-Nazaire. C'était Maple Gilder avec Swimming.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Antoine Lee.
On est à Saint-Nazaire et dans quelques minutes, il sera midi. Tous nos invités sont restés pour déguster toutes ces belles choses qu'on a sous les yeux. Ce sont les femmes de l'association Le Goût des Autres qui nous a gentiment apporté tous ces plats. Stéphanie Triscos et Olena Noubric, bonjour.
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 C'est surtout vous, Olena, qui avez cuisiné tous ces plats-là incroyables. On vous avait dit qu'on ne sera pas nombreux là. Vous êtes venus avec de quoi nourrir un régiment.
Non, mais ça, c'est juste des échantillons, juste pour déguster. Et c'est pas que moi qui ai cuisiné. Moi, c'est juste un seul plat.
C'est lequel, le vôtre?
Ça, c'est chouba, vous voyez, dans les verrines.
Il y a quoi dedans?
Il y a rond fumé avec la nette, de pommes de terre, la carotte et le betterave.
Et ça vient d'où?
Ukraine, c'est de mon pays, voilà.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre?
Après, vous avez des aubergines grillées au four farcies aux noix. Et là, il y a un petit peu ces spécialités géorgiennes. C'est ma collègue Irma qui a préparé. Après, vous avez samosa au poulet. C'est Shia, la cuisinière indienne, qui a préparé. Et vous avez aussi la fouettée aux épinards et aux trois fromages. C'est Rosana, qui vient d'Arménie, qui a préparé ça. Ensuite, il y a boisson qui s'appelle Bissap.
Ah, ça, c'est, ça vient d'Afrique, je connais.
C'est la cuisinière ivoirienne qui a préparé ça pour que vous pouvez déguster.
Mais c'est un tour du monde que vous nous proposez, là. Hein.
C'est normal parce que notre association, on est 15 cuisinières étrangères. Et chacune, on propose nos plats traditionnels aux gens français qui commandent.
Tout le monde goûtez, là, ne soyez pas timide, hein, Pierre. Faites pas votre timide Ewen, Elodie, Jean-Brice, allez-y. On va venir avec vous parce que vous, vous avez apporté le dessert. Stéphanie Triscos, vous êtes l'une des bénévoles de cette association, Le Goût des Autres. Quel est le but de l'association ?
Le but de l'association, c'est de permettre aux femmes qui sont soit réfugiées, soit migrantes, qui ont rejoint la France, de travailler. Donc, au-delà de leur régularisation, c'est leur intégration par le travail, en valorisant, en mettant en lumière leur origine, leur qualité culturelle, leur capacité à faire connaître leurs plats familiaux traditionnels. C'est vraiment des moments de partage. C'est pour la cuisinière, c'est le bonheur de confectionner, de partager ses origines. Et puis pour le client, c'est un voyage à chaque fois.
Pierre Joubert, là, vous dégustez le plat ukrainien d'Olena. Comment c'est ?
On trouve les goûts de tous les éléments. On sent la carotte, on sent la betterave. Et il y a une espèce de sauce, de crème. C'est délicieux.
Vous pourriez être critique gastronomique, vous, comment, avec le talent avec lequel vous en parlez.
Vraiment y aller au fond pour chercher le hareng, parce que sucré, salé, ce carotte et betterave, il compose avec le hareng, c'est bon. Il faut vraiment creuser en bas.
C'est très bon. Il faut toujours creuser les choses, il faut aller jusqu'au bout ou jusqu'au fond.
Creusons avec vous, Stéphanie Triscos, sur l'histoire de votre association Le Goût des Autres. Comment elle est née ?
Alors, à l'origine, c'était en 2004, dans une école primaire de Nantes, Stalingrad, des parents qui sont alertés par la situation de précarité d'enfants et de leurs familles sans papier. Et donc, ce collectif de parents va accompagner jusqu'à la régularisation ces familles. Et pour remercier de leur engagement, les familles, lorsqu'elles sont régularisées, avaient pris l'habitude de leur offrir un repas, de leur faire découvrir leur gastronomie. Et de là a germé dans l'esprit d'un des membres les plus actifs de ce collectif, qui était Charles Soussan, l'idée de créer une association pour leur permettre, après ce qu'on disait tout à l'heure, après la régularisation, l'intégration. Donc en 2010, se crée l'association Le Goût des Autres, Cuisine sans frontières, pour permettre justement de travailler à ces femmes-là.
Olena, vous êtes arrivée depuis l'Ukraine. Oui. Dans quelles circonstances vous êtes arrivée en France ?
Je suis arrivée en France en 2001. On a quitté le pays parce que on avait des problèmes politiques là-bas. Et c'est pour cette raison qu'il fallait fuir le pays pour ne pas mettre sa vie en danger et la vie des enfants. Et on était obligés de partir.
Et à l'époque, vous suiviez des études d'ingénieur en télécommunication, hein,
oui.
C'est ça ?
Oui, c'est ça. J'ai mon diplôme d'ingénieur en télécommunication. Que j'ai même pas eu le temps de... J'ai travaillé juste un tout petit peu et après, on est parti de notre pays, on est venu ici en France.
Dans l'urgence. Et vous ne pouviez pas valoriser votre diplôme ici ?
Non, je ne pouvais pas parce qu'on était en procédure qui était à l'époque très longue. C'est pour ça qu'on a resté 7 ans sans avoir le droit de travailler. Et après, grâce à l'association Les Enfants étrangers citoyens...
C'est la première association Le Goût des Autres.
...qui m'a donné cette idée de demander l'asile territoire, c'est-à-dire à Nantes. Et elle me dit de trouver quelqu'un qui peut m'embaucher à travailler. J'ai eu ma première embauche. Et c'est à partir de ça que j'ai eu mes premiers papiers.
Stéphanie Triscos, aujourd'hui c'est important de passer du statut d'association que vous étiez à une structure plus professionnelle pour pérenniser le projet et consolider l'avenir de ces femmes comme Olena.
C'est particulièrement vrai après cette période de confinement. Donc il y a eu des projets là pour revisiter le modèle, donc continuer l'événementiel. Il y a eu des très gros événements auxquels l'association a participé, comme l'ouverture du voyage à Nantes en 2016, et des mariages, des séminaires, donc toutes sortes d'événements. Mais avec le confinement, il a fallu un petit peu se réinventer. Donc aujourd'hui, il y a actuellement un click and collect qui fonctionne, et l'objectif étant de développer la livraison avec des coursiers éthiques, et puis pourquoi pas un jour un lieu sédentaire. Donc il faut se réinventer, et puis à cette occasion-là, on se professionnalise là avec une association qui s'appelle Passerelles et Compétences, qui met à disposition des associations solidaires des compétences de professionnels, soit à la retraite, soit en activité, pour justement garantir l'existant et puis surtout développer plus de contrats.
Là, il y a déjà 5 personnes qui sont en CDI. Olena Noubric, ça vous apporte quoi, le goût des autres ?
Alors, j'ai mon CDI, mon premier CDI, j'ai obtenu en 2019. J'avais un CDD avant, juste en 2017. Ce que m'a apporté la stabilité déjà financière et la stabilité, c'est-à-dire que j'ai eu un seul lieu où je vais travailler, parce qu'avant j'ai travaillé déjà dans les cantines collectives, dans les hôpitaux et tout, j'ai couru partout à peu près. Et au goût des autres, à partir de 2015, on a eu déjà notre cuisine professionnelle où on pouvait venir à peu près chaque jour à travailler. Et du coup, c'était stable par rapport au lieu, c'était stable financièrement. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient au cœur. Parce que comme on est venus des étrangers, on a beaucoup de choses à partager. Et c'est la richesse. On partage le goût, on partage nos histoires. On partage notre savoir-faire aussi. Et c'est ça qui attire aussi. Et ça attire nous et ça attire les gens aussi. Ils sont beaucoup intéressés à notre cuisine, à notre culture aussi.
Alors forcément, avec le nom de votre association, Le Goût des Autres, on pense au film d'Agnès Jaoui. Et bien, il se trouve que c'est la marraine de votre association.
Bah oui, tout à fait. Ça fait longtemps maintenant qu'elle accompagne cette association. Et les cuisinières ont eu la chance de la retrouver l'été dernier à Nantes, puisqu'elle tournait un film.
Alors on va passer au dessert avec les yaourts frais de la ferme entre chèvre et choux. Élodie Chollet et Jean-Brice Moutot, bonjour.
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 Entre chèvre et choux, c'est d'abord une histoire entre deux frères. Vous, Jean-Brice, et votre frère cadet Martin, puis vos épouses respectives vous ont rejoint. Élodie, pour qu'on comprenne un petit peu, vous êtes la femme du frère qui n'est pas là aujourd'hui, Martin. Voilà. Comment est née cette aventure entre chèvre et choux ?
Nos activités respectives qui tournaient tout le temps un petit peu autour de l'agriculture nous ont fait mûrir un projet qui était tout d'abord le maraîchage bio qu'on a mis en place à partir de printemps 2016. Et suite à ça, ma conjointe Sabrina avait un projet sur la partie fromagère, plus sur les chèvres. Donc on a mis en place un petit élevage de 80 chevrettes alpines. Et à partir de ce jour, la ferme ne fait que se développer, à la fois sur l'élevage, mais aussi sur la transformation fromagère, une gamme de produits qui est aujourd'hui assez importante.
Vous proposez quoi ?
On propose à la fois des fromages frais, mais aussi des desserts, du fromage affiné, pour faire évoluer cette gamme.
Élodie, par exemple, là, vous nous avez apporté des yaourts qu'on va goûter, et donc ça vient tout droit de votre ferme.
Voilà, tout droit de la ferme entre chèvres et choux, avec le lait de nos chèvres, de nos jolies chèvres.
Ce qui est intéressant avec votre histoire, c'est qu'à Saint-Nazaire, l'agriculture était plutôt en recul. Et vous avez réussi, ce tour de force, de relever le défi et votre ferme chèvre et choux cartonne.
Il faut faire la queue pour venir faire les courses, effectivement. Donc je pense qu'on est tombé au bon moment. On a pris la bonne vague. Et puis grâce au soutien d'agriculteurs qui partaient à la retraite, au soutien de nos voisins, et puis on a réussi à s'installer. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a un vrai soutien qui vient de tous les côtés.
Et comment ça s'est passé avec le Covid, avec le confinement ?
Le Covid, je pense, pour beaucoup d'entre nous qui avons des petits ateliers de transformation, a été assez bénéfique. Une partie de la population s'est un petit peu détournée des grandes surfaces qui étaient des lieux qui faisaient peur, en tout cas au début de la pandémie. Donc on a été très vite débordés, donc on est ravis.
Vous nourrissez combien de familles à peu près là ?
Alors à peu près, c'est 250 familles par semaine.
Votre mari Martin n'a pas pu venir ce matin parce qu'il doit faire des démarches administratives pour un stagiaire sans papier.
Martin est resté sur la ferme là, parce qu'on a effectivement un stagiaire qui est arrivé en France depuis quelques années et qui galère à obtenir ses papiers et qui, comme l'expliquait Olena sur son début de carrière, qui ne peut pas travailler du coup et qui est bloqué.
Je suis sûr que Stéphanie Triscos et Olena Noubric pourront vous donner des infos. N'hésitez pas à leur demander. Hein. On est là aussi autour de la table à partager des bons petits plats, des bons petits yaourts, mais aussi des bonnes infos. Merci à tous. Merci à Mareille, la patronne du café du centre, pour son accueil. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert. Raphaël Plusquevave m'a aidé à la préparer avec une efficacité redoutable. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Demain, vous retrouvez Aurélie Sfèze à Villeurbanne.